Bonsoir à vous, c'est Très Supersonique. Attention les enfants, il est fortement recommandé de faire la même chose chez vous. Tout ce que vous entendez est réalisé par des professionnels aguerris qui n'ont pas oublié qu'avant ça, ils ont été amateurs. Tout ça, c'est dans la tête. C'est des paysages dans la tête. Des territoires, des vrais mais ouverts et adaptés à chacun, avec des douaniers franchement détendus. Espace mental, oui, mais espace quand même. Géographie à arpenter, cartographie aux formes souples, pas perdu pour tout le monde. Un autre endroit, des altermondes. La culture a ses machines, les machines ont leur culture. Bienvenue ici, les androïdes, on se dégourdit les jambes et les esgourdes. Vous êtes chez vous, salut. Dans la deuxième partie de l'émission, tout à l'heure, nous serons avec David Lemoine et Antoine Capet, les deux éminents animateurs de Brut Pop, à la fois duo de créateurs, atelier musical et sonore, lieu d'invention d'instruments. Ça pétille chez Brut Pop, on verra ça donc tout à l'heure avec ces deux invités. Mais d'abord rendez-vous avec le compositeur et homme de scène, Thierry Ballas. Thank you. Bonsoir Thierry Ballas.
Bonsoir.
On entre dans le vif du sujet tout de suite avec cet extrait de La face cachée de la lune que vous produisez encore régulièrement sur scène avec votre compagnie, la compagnie Inouï, que vous baladez même de scène en scène, cette face cachée de la lune qui est une forme de recréation, on va dire, de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Une interprétation assez personnelle, mais une interprétation, ouais. Enfin, à peu personnel, pas tant que ça, parce que sur les moments de chanson, on est quand même très très proche de l'album original. C'est sur les parties expérimentales où on développe, qui existent hein, déjà dans l'album à l'origine, mais qu'on développe énormément, comme on vient de l'entendre d'ailleurs à l'instant. Et puis là, c'est très touchant d'entendre ça, parce qu'il y a encore Laurent Daillaud à ce moment-là. Laurent Daillaud qui nous a quittés en cours de tournée, malheureusement. Et là, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est encore lui qui joue notamment du moisturizer, ce système avec des ressorts là, qui frappe.
Mais ça, c'est alors une des choses qu'on comprend en voyant La face cachée de la lune, c'est que c'est une manière de jouer aussi de manière concrète, on va dire, d'interpréter de manière concrète, une musique concrète, la composition des Pink Floyd.
C'est ça, l'idée c'est de montrer comment le travail s'est fait en studio, parce que Pink Floyd, il y a un travail en studio qui est hyper chialé, hyper minutieux, de longue haleine, et malheureusement, enfin de mon point de vue, malheureusement sur scène, c'est l'aspect visuel qui prend souvent le pas. En tout cas, moi j'ai jamais vu les Pink Floyd sur scène, mais tous les gens qui m'en parlent me parlent d'abord des effets spéciaux et du visuel. Et la partie musicale, évidemment, qu'elle était très forte. Mais sur l'album de Dark Side of the Moon, il y a tout un tas de choses qu'il faisait pas en fait sur scène. Les parties bruitages et certaines parties synthé, il les faisait pas sur scène. C'était des bandes playback.
Mais il les faisait pas parce qu'il
c'était difficile.
Pas, voilà,
c'était infernal.
Oui,
à l'époque où l'album est sorti, faire des bruitages, aller capter le tic-tac d'une horloge et tout sur scène, c'était compliqué. Les techniques. Nous, on utilise à la fois la partie analogique de l'époque pour les parties synthé, parce que pour la qualité du son, c'est indispensable. Et à la fois, pour faire les bruitages, on s'appuie sur les techniques numériques. Et donc, voilà, l'idée, c'est de montrer comment cette musique s'est faite en studio. Et je pense que ça offre aussi, pour une fois, au public, l'occasion de retrouver vraiment le timbre, le timbre de cette époque-là, et de voir et d'entendre la musique des Pink Floyd, justement, sans le déballage de vidéos, de lumière, et d'être concentré sur le son et la musique.
Mais alors, pour vous, personnellement, c'est une manière de vous replonger dans une musique qui était...
Ouais, parce que moi, je suis plutôt dans les musiques expérimentales maintenant, mais je viens de là. Le premier disque qui m'a propulsé dans le monde de la musique et du son, c'est réellement celui-là.
Il paraît que c'est votre frère qui vous a mis le casque sur les oreilles et vous avez écouté de l'intégrale.
C'est exactement ça. C'est ça. À l'époque du vinyle, hein, évidemment. Ouais. Et oui, je suis vraiment parti dans le monde. Et aussitôt, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce mélange de toutes les dimensions du sonore. À la fois l'instrumental, la voix chantée, la voix parlée, il y en a beaucoup dans l'album, et le bruitage. Et j'aimais bien cette fusion entre toutes ces dimensions du sonore. Ce qui m'a à la fois propulsé vers la musique et à la fois vers un désir de son aussi, de travail du son.
En fait, Thierry Ballas, The Dark Side of the Moon est un album expérimental. Enfin, c'est aussi une part de musique expérimentale.
Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, les Pink Floyd disaient qu'ils s'inspiraient de la musique contemporaine, de Xenakis notamment. Ils citaient Xenakis, Pierre-Henri. Donc oui, on est à une époque où on n'est pas très très loin de la messe pour le temps présent, on n'est pas tellement de temps après, et je pense que ça a influencé grandement les Pink Floyd, et pas que les Pink Floyd, le studio Abbey Road aussi, parce que les ingénieurs se sont aussi jetés sur ces nouvelles techniques de travail, et assez vite, moi ce qui me plaît dans l'approche des Pink Floyd, c'est de considérer que, c'est ce que disait Laurent Daillaud d'ailleurs, et je pense qu'il a raison de considérer que le studio d'enregistrement devient un instrument de musique dans sa globalité.
Mais en particulier Abbey Road, qui est évidemment le studio des Beatles, qui a été un lieu d'expérimentation, notamment à travers les Desiderata Imagination de George Martin, qui est parti il n'y a pas très longtemps. Voilà, il faut aussi avoir des interlocuteurs pour expérimenter.
Absolument, ils ont même, les ingénieurs d'Abbey Road ont même inventé des effets spéciaux qui n'existaient que là-bas, dans le frequency shifter notamment, qui après a été repris par d'autres fabricants de synthé.
Et c'est quoi ça?
C'est le fait d'avoir une modulation, mais qui joue sur la fréquence du son. Alors aujourd'hui c'est une évidence, en numérique c'est très facile, en analogique c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et ils avaient développé ça, on l'entend dans The Dark Side of the Moon. Ça a été compliqué pour nous d'ailleurs pour retrouver cet effet-là. Oui, ils développaient des techniques de travail particulières et le montage de bandes, alors que nous on connaissait, enfin que nous, moi j'étais pas là encore, mais qui était pratiqué dans les musiques expérimentales, c'était balbutiant dans la pop et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait sur Monet, la structure rythmique de Monet, c'est un montage de bandes de 7 sons. Ouais.
Vous-même, Thierry Ballas, donc vous êtes ingénieur du son, je crois, de formation, voilà, vous êtes compositeur, vous êtes arrivé à la musique électroacoustique par des rencontres.
C'est assez étrange parce que j'ai appris mon métier dans une école de théâtre, technicien son de théâtre. Mais comme je faisais de la pop dans un groupe, j'étais batteur, mais il y avait un mini Moog dans le groupe et on répétait chez moi. Donc le mini Moog, il était chez moi, enfin chez mes parents. Et j'ai gardé ce mini Moog. Et en fait, j'ai développé un espèce d'univers sonore et musical pour le théâtre où j'utilisais à la fois la percu, la synthèse. Voilà, ce genre de choses-là.
Le mini Moog, il faut le dire, c'est un clavier, c'est un des premiers claviers.
C'est un des premiers synthétiseurs très accessibles aux musiciens. Il y en a eu avant, mais c'est un des premiers modèles sortis en 69, qui était très accessible pour les musiciens. Et du coup, je m'étais créé mon univers, et moi, j'étais totalement inculte, disons-le. Et c'est beaucoup plus tard, en rencontrant Christian Zanesi, que j'ai découvert que je faisais de la musique électroacoustique sans le savoir. C'est Christian qui m'a fait découvrir ça.
Christian Zanesi, qui est compositeur, lui aussi, qui a été le très longtemps directeur artistique du groupe de recherche musicale. Le creuset en France de ce type de musique,
c'est un lieu d'invention de la musique électroacoustique. C'est l'endroit où est née cette musique-là. Ouais, Christian, qui est un grand compositeur pour moi de musique électroacoustique, et qui m'a encouragé, Et après, plus tard, j'ai rencontré Pierre-Henri. Voilà. Donc effectivement, et c'est ce qui m'a amené vers ces musiques-là, avec le désir très clair de faire découvrir cette musique-là à un public le plus large possible. C'est-à-dire de sortir des festivals de musique électroacoustique et de rentrer dans les scènes nationales, les scènes pluridisciplinaires. C'est vraiment, clairement, un des objectifs de la face cachée de la Lune. Ouais. C'est-à-dire qu'on piège le spectateur, soyons clairs. Il vient pour Pink Floyd, et on lui donne du Pink Floyd, mais on l'emmène aussi ailleurs. Parce que le spectacle fait 1h30 et le Dark Side of the Moon, c'est 45 minutes. Donc tout le reste, c'est des improvisations, et où on part vraiment dans l'expérimental.
Voilà, interlude, Thierry Ballas. Il s'agit évidemment de la bande originale d'Orange Mécanique. Voilà, c'est l'ouverture de Guillaume Tell. On vient pour Guillaume Tell et on repart avec Wendy Carlos. C'est le compositeur-compositrice qui a revisité à partir de... Ben, là aussi, c'était les premiers temps du synthétiseur. Vous parliez du Moog. Voilà, ce son-là, pour vous, c'est important. On le retrouve régulièrement.
Oui, alors ceci dit, pardon, mais pas avec cette utilisation-là. Là, je pense que c'était les écueils pour moi des débuts de l'utilisation du synthétiseur. Cette espèce d'illusion qu'on allait pouvoir remplacer les instruments de musique.
Oui.
Et on a revécu la même chose avec l'informatique. Voilà, l'illusion qu'on peut tout faire avec l'ordinateur. Or, c'est pas le cas. Si on continue d'utiliser des violons, je vois pas pourquoi on continuerait pas d'utiliser des synthétiseurs. Mais des synthétiseurs pour moi, utiliser le synthétiseur pour reproduire un son d'instrument, d'un autre instrument, ça a pas de sens. Mais je me souviens, la documentation du Mini Moog, on avait des patchs et on nous disait comment faire une trompette, faire un violon. Voilà, on a vite laissé tomber.
Pour créer son propre son, c'est ça que vous voulez dire?
Bah oui. C'est moi ce qui m'intéresse d'ailleurs, moi, quand je joue du Mini Moog, j'utilise très peu le clavier. Ce que j'utilise, c'est tout le reste, quoi. C'est toutes les modulations, tous ces aspects-là. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Même si le Mini Moog, il y a aussi, parfois entre les mains de certains musiciens de jazz, ça donne des choses magnifiques, attention.
Alors, vous avez donné le nom de Pierre-Henri, donc qui a été une rencontre importante pour vous, et dont vous participez aujourd'hui à la création de ses œuvres les plus contemporaines, vous les accompagnez. Qu'est-ce que vous avez appris avec Pierre-Henri?
Avec Pierre-Henri, j'ai appris une nouvelle façon d'aborder l'espace sonore. Moi, c'est une des grandes forces du théâtre. Quand vous travaillez pour le théâtre, il n'y a pas de normes. C'est ce que j'aime. Quand on est en radio, en télé, en cinéma, tout est hyper normé finalement. Il y a plusieurs normes, mais il y a des normes. En théâtre, on n'a pas de normes, on fait ce qu'on veut. On place les enceintes où on veut, on décide du nombre d'enceintes qu'on veut. Donc j'étais assez friand de ça, de travailler sur l'espace. Mais avec ce réflexe d'ingénieur du son, de dire il faut que le système soit cohérent, il faut qu'on ait toujours les mêmes enceintes, et on va faire tourner le son, les espèces de réflexes qu'on a de technicien. Et avec Pierre-Henri, j'ai découvert qu'en fait, c'était intéressant de mélanger les haut-parleurs, justement de les aborder chacun avec leurs caractéristiques et de voir comment la musique, tout à coup, le son prend une dimension dans l'espace assez étonnante et qu'on ne peut obtenir que en mélangeant justement les différents types d'enceintes. Donc j'ai beaucoup appris là-dessus avec lui.
Et c'est quelqu'un qui transmet volontiers ? Parce qu'il peut paraître un peu rugueux pour l'avoir
interviewé. Non, c'est pas quelqu'un qui transmet volontiers, mais c'est quelqu'un qui discute volontiers. Donc c'est en parlant de sa musique, et puis en travaillant à son service, surtout, qu'on finit par apprendre des choses. Et puis c'est aussi grâce à Étienne Wultinger que j'ai appris tout ça. Étienne Wultinger, qui était son ingénieur du son, mais qui a été mon professeur de son au départ.
Oui, Étienne Wultinger qui est disparu à la fin de l'année dernière et on en avait parlé dans Supersonic à ce moment-là. Alors, une pièce, et je crois que vous en avez déjà parlé depuis le début de l'émission, qui est signée Pierre-Henri aussi, vous avez décidé de la ressaisir. Et de la même manière, avec ce côté, venez écouter Psyché Rock, le tube de l'électroacoustique signé Pierre-Henri à l'intérieur de La Messe pour le temps présent, qui est une pièce qui avait été composée pour un ballet de Maurice Béjart, qui est devenu une sorte de tube véritablement. Ah, et vous dites, venez, on revisite aussi ça, et c'est une nouvelle proposition, et puis vous ouvrez les portes encore plus grand aussi, c'est cette stratégie de...
C'est la même stratégie.
La stratégie de la chasse.
On va un petit peu plus loin, je dirais même, puisqu'effectivement on propose aux gens une interprétation qui est la première interprétation scénique de la messe pour le temps présent, ça n'avait jamais été fait. C'est pas ça qui m'intéresse, le fait que c'est jamais été fait, mais ça veut dire qu'on défrichait quelque chose, quoi. Et ça, c'est intéressant dans le travail. Et donc effectivement, les gens viennent pour ça, sauf que la messe pour le temps présent, ça dure, dans notre version, ça dure 20 minutes parce qu'on l'a étiré, parce qu'on a fait un mélange entre la version disque et la version ballet. Mais évidemment, il faut qu'il y ait autre chose. Donc il y a une composition que je propose moi, qui est une musique mixte avec des instruments, des traitements analogiques, des traitements numériques. Et puis on joue aussi Fanfare et Arc-en-Ciel, qui est une autre création de Pierre-Henri, une création récente, sur orchestre de haut-parleurs. Et ça, les gens qui connaissent bien la musique électroacoustique connaissent bien l'orchestre de haut-parleurs. Les gens qui vont dans les scènes pluridisciplinaires ne connaissent, mais pas du tout.
Le principe, c'est que le haut-parleur est un instrument.
Voilà. Et donc il n'y a pas d'instrumentiste. La musique est enregistrée et c'est l'interprétation consiste à travailler dans l'espace justement avec. Alors sur le spectacle, on a une cinquantaine de haut-parleurs. Et donc oui, pour les gens, c'est un choc. Et la petite astuce de composition du spectacle, c'est qu'on démarre par le choc et puis donc les gens sont un peu ébranlés, vraiment. Et puis on les remet en connexion avec ce qu'ils connaissent, avec la messe pour le temps présent, et du coup tout passe très bien, et après ils ont même envie de parler du reste, même s'ils ont été un peu perturbés, soyons clairs, mais ils sont contents, du choc.
On va refaire en accéléré cette démarche-là. On va commencer non pas par le choc, mais par le connu, par ce Psyché Rock. Pierre-Henri au départ, évidemment, et Michel Colombier.
Et Michel Colombier, oui.
À citer. Et puis ensuite, l'ouverture des portes. On va voir ça, le concert pour le temps présent. C'est ça le titre de la totalité. psyché rock dans Concert pour le temps présent, la version donc la plus récente, celle que vous défendez sur scène, Thierry Ballas, avec votre compagnie Inouï. Et donc vous disiez que vous mélangiez ça avec ce que vous appeliez le choc, par exemple, d'une composition plus récente, beaucoup plus récente, de Pierre-Henri, Fanfare et Arc-en-Ciel, extrait. Voilà, donc court extrait de Fanfare et Arc-en-Ciel, où on se rend compte, Thierry Ballas, que Pierre-Henri garde toujours cette formation de percussionniste.
Ouais, absolument.
Très fortement.
Oui, oui, et c'est ce qu'on a, on en a repris la mesure en travaillant sur la messe pour le temps présent. Parce qu'on a vite fait penser, quand on écoute la messe pour le temps présent, de croire qu'il y a des placements rythmiques hasardeux. Et en fait, dès que vous travaillez dessus, vous vous rendez compte que c'est pas du tout hasardeux, que c'est hyper chiadé. Et oui, oui, c'est un rythmicien. Et effectivement, là, on vient d'entendre la fin de Fanfare Arc-en-Ciel, qui est un moment que j'adore. Effectivement, où il y a un travail rythmique qui est vraiment intéressant.
Et donc, à l'intérieur de Concert pour le temps présent, vous proposez une, composition à vous qui s'appelle Fusion AAN, qui joue sur des questions de dilatation, rétractation du temps ou de l'espace.
C'est ça, ouais. Je m'intéresse beaucoup à la physique quantique et à l'espace et à cette idée d'un univers en expansion et peut-être en rétractation, et peut-être il l'a été avant. Et oui, j'avais envie de travailler là-dessus. Donc certains instruments passent par un traitement très très simple, qui est un traitement de délai, de répétition du son, sauf que les valeurs des répétitions ne sont pas les mêmes pour chaque instrument et vont aller effectivement en grandissant, créant comme ça des rapports rythmiques qui sont un peu étranges pour les musiciens, c'est pas évident, parce qu'ils doivent à la fois rester concentrés sur leur délai à eux et à la fois jouer avec les autres. Voilà. Oui, il y a cette idée un peu comme ça d'une dilatation des délais, puis après ça se resserre.
On écoute alors un extrait de cette fusion AAN.
êtes à l'écoute de Supersonic, de Thomas Baumgartner.
Alors Thierry Balès, il paraît qu'en travaillant sur la messe pour le temps présent, qui a servi de base pour ce spectacle concert pour le temps présent, vous avez retrouvé des morceaux qui faisaient partie de la messe, mais qui n'avaient pas été utilisés, enfin qui existaient. Quoi.
La première étape, c'est Pierre-Henri qui me dit, dans mes archives de la messe, j'ai retrouvé ce morceau-là qui s'appelle « Mort ». C'est un mouvement qui s'appelle « Mort », qui fait 1 minute 10, si je me souviens bien, et qui est un mouvement purement électroacoustique. Il me dit, voilà, je viens de retrouver ça, je m'en souvenais pas. J'ai pas mémoire qu'on l'avait utilisé, voilà, je vous le donne. Et puis, parallèlement à ça, il m'a donné des bandes de studio, gérées donc par la partie gérée par Michel Colombier. Mm-hmm. Et là, en faisant les transferts, on tombe sur un slow. Ouais. Un slow assez beau, vraiment assez beau, avec une belle thématique. Et en plus, je regarde la durée du slow, de la version qui me paraît la plus intéressante, et elle fait 1 minute 10. Voilà. Et donc, je pense vraiment qu'ils avaient prévu de mêler ces deux parties-là. Mais ils ont décidé de ne pas le garder dans le ballet final. Donc, on joue ce slow, ouais, pour la première fois.
Il faut rappeler Michel Colombier, qui était un grand orchestrateur, grand arrangeur.
Et compositeur aussi.
Compositeur, en partie une musique de film, pas que, et qui a terminé, je crois, sa carrière en travaillant avec Madonna.
Aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis.
Vous êtes un fabriqueur, inventeur d'instruments, Thierry Balès.
Inventeur d'instruments, j'irai pas jusque là, mais j'aime bien explorer les sons et ça me conduit parfois effectivement à avoir des bidouilles. Alors beaucoup des bidouilles de percussion avec les micros intégrés, mais par hasard en studio, je suis tombé sur le phénomène du Larsen qu'on connaît tous. Sauf que ce que j'ai découvert que je ne savais pas, c'est que quand on combine des Larsen, on peut les moduler. C'est-à-dire que le Larsen ne part plus tout à coup dans une fréquence précise, mais il fluctue. Voilà, je suis tombé dessus par hasard.
Larsen, la question de base, c'est le micro face au haut-parleur, par exemple. Tout d'un coup, ça fait un son très, très aigu et très agréable. Et vous en transformez en
note. Moi, maintenant, j'en joue parce que j'ai découvert que quand j'en mélange trois, je peux les moduler. Je peux sculpter les Larsen. J'ajoute des traitements, ce qui permet en plus d'avoir un enrichissement du timbre. Et c'est un grand bonheur de jouer de cet instrument qui évolue avec le temps. Hein, et en plus, qui est très sensible au lieu, donc il réagit pas du tout pareil. Et moi, j'aime bien ça. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Je suis un piètre instrumentiste. Donc, du coup, je m'invente des instruments que je suis le seul à pouvoir jouer.
Comme ça, voilà. Pour pas pouvoir vous comparer.
Exactement. Plus de comparaison. Mais oui, le Gant Larsen qui se développe et qu'on utilise effectivement dans Fusion AAN. AAN, c'est acoustique, analogique et numérique.
Et c'est donc c'est un gant, c'est ça?
Oui. Alors maintenant, c'est des bagues, ça s'affine. Ça s'affine. J'avais envie de qu'on voit les mains, vraiment. Voilà. Donc maintenant, ce sont des bagues avec des gants et juste quelques traitements, de la réverb, une transposition et un filtre dynamique pour les connaisseurs. Et puis c'est tout. Et c'est vraiment la combinaison des trois Larsen qui crée ces espèces de richesses harmoniques, ces modulations. Et voilà, c'est un instrument assez agréable à jouer.
Alors Inouï, c'est une compagnie, donc c'est du monde. Vous êtes aussi un meneur de troupe. Bonne partie de votre activité va dans ce sens-là et de votre énergie aussi.
Oui, je confirme. Ouais. Ouais, je confirme parce que c'est de plus en plus une lutte pour maintenir hors de l'eau une compagnie. Ça devient compliqué. Mais oui, c'est important pour moi de. Le travail, il se fait pas tout seul. D'ailleurs, j'en profite même pour signaler que même sur Fusion AN, je suis le compositeur de départ, mais je travaille beaucoup avec les musiciens. Ils apportent leur pierre à l'édifice. Et j'aime bien ne pas travailler tout seul. Donc, il y a deux musiciens associés à la compagnie. Il y a Eric Groslot, qui est le batteur et percussionniste des projets. Et plus récemment, Cécile Maisonneau, qu'on vient d'entendre au piano préparé. Voilà, le son de piano qu'on entendait à la fin de Fusion, c'est du piano préparé. Enfin, pas à la fin, mais au milieu, là, de l'extrait. C'est du piano préparé, ce qui consiste, pour ceux qui ne connaîtraient pas, à mettre des éléments dans les cordes du piano.
Perturber un peu le piano, comme faisait par exemple John Cage, à qui vous avez consacré d'ailleurs aussi un spectacle.
Oui, absolument. John Cage et Pierre-Henri. Pierre-Henri aimait beaucoup ça aussi. Les espèces de sons de cloche qu'on a entendus sur la fin de Fanfare Arc-en-Ciel, c'est du piano préparé en fait.
Il y a aussi Eric Lohrer.
Eric Lohrer qui devient aussi un fidèle de la compagnie à la guitare électrique. Sur le concert pour le temps présent, il y a une jeune recrue qui est Élise Blanchard, dont je suis super heureux. C'est une jeune bassiste qui a un talent incroyable. Et Antonin Rayon, alors lui qui est un musicien un peu plus âgé, qui joue de l'orgue Hammond et qui est assez incroyable aussi. Et Benoît Meurant qui nous rejoint. J'aime bien Benoît parce qu'il a un peu le même profil que moi. Il est à la fois ingénieur du son et à la fois musicien. Et selon les spectacles dans la compagnie, il se retrouve derrière la console ou sur scène avec nous.
Alors parmi les spectacles qui sont défendus par la compagnie Inouï régulièrement, il y a aussi un spectacle autour de Jean Jaurès, mais Jean Jaurès le jeune.
Le philosophe.
Le philosophe qui parle du monde sensible, il parle de son aussi.
Absolument.
Il y a un comédien qui Benoît Marchand, c'est ça, qui incarne Jean Jaurès.
Alors, incarne. Non. Il ne l'incarne pas.
Ah, il le cite.
Il porte les mots de Jaurès. Il ne l'incarne surtout pas. Surtout, sinon, on fait une espèce de mélange hybride entre du théâtre et de la musique, ce dont j'ai absolument horreur. Voilà.
Très bien. C'est noté. C'est clair. Je ne m'aventurerai plus sur ce terrain. C'est bien noté, Thierry Ballas. Alors j'ai lu parmi les groupes qui vous intéressent aussi, il y a Radiohead. Alors, c'est imaginable de faire comme vous avez fait avec Dark Side of the Moon et Pink Floyd, de réinterpréter du Radiohead. Ça se défendrait?
Non, parce qu'ils le font très bien. Et puis, il y a autre chose quand même, c'est que je vais pas finir ma vie à faire que des reprises quand même. Mm-hmm. Je continue, d'avoir envie, de mélanger notre musique d'aujourd'hui et des musiques qui font référence parce qu'il y a un effet de mémoire qui me plaît beaucoup. Mais voilà. Je vais pas. Non, on va.
Jean Jaurès, c'est pas de la reprise.
Non, absolument, c'est que de la création. Mmh. Et les mots de Jean Jaurès. Alors, puisqu'on parle de Jean Jaurès, je vais quand même citer une des phrases de Jean Jaurès qui, moi, m'a frappé en lisant son mémoire de philosophie. Jean Jaurès dit : un son nouveau, c'est la révélation d'une force nouvelle, d'une parcelle d'âme inconnue. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça.
On va réfléchir à ça, on peut aussi réfléchir en allant vous voir sur scène, Thierry Ballas et la compagnie Inouï. Le concert pour le temps présent, par exemple, le 3 mai, donc bientôt, ça se passe à l'Agora de Boulazac, donc en Dordogne. Ce sera aussi le 27 mai à l'Arsenal à Metz. Et puis il y a la Face cachée de la Lune qui tourne toujours aussi. 18, 19, 20 mai au Théâtre d'Oulin, si je me trompe pas, c'est dans le Rhône.
C'est à côté de Lyon et je précise que le 19, c'est notre 100e.
La 100e de la Face cachée de la Lune. Il y en aura encore après, puisque le 31 mai, vous êtes à l'Arsenal de Val-de-Reuil. Et le 17 juin, au Conservatoire de Puteaux. Merci beaucoup, Thierry Ballas, d'être passé par Supersonic et amitié donc à la compagnie.
Merci à vous de faire Supersonic.
Merci. Alors, vous nous laissez réfléchir là-dessus. Et c'est déjà la deuxième partie de Supersonic. Avec David Lemoine et Antoine Capet, les deux animateurs actifs de Brut Pop, un duo Brut Pop, mais pas que. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
C'est pas forcément simple de définir Brut Pop parce que vous êtes à la fois fabriquer des disques, vous animez des ateliers, vous travaillez avec des handicapés, des autistes, mais vous inventez aussi des instruments. Est-ce que on peut dire que globalement Brut Pop ce serait un laboratoire ouvert?
C'est plutôt sympa. Ouais, on aime bien le côté labo.
Ouais.
Mais on va dire que c'est quand même un labo qui explore un peu les questions du son et du handicap, en gros, pour faire un peu un raccourci. Au départ, c'est un atelier qu'on a monté avec David il y a 6-7 ans, qui à l'époque s'appelait Atelier Méditerranée, et un atelier qu'on un peu des groupes de rock qu'on va faire dans les institutions, où on fait... Et ça vire toujours un petit peu expérimental. C'est vrai que depuis 2 ans, on commence à fabriquer nos instruments. On traîne pas mal dans les Fab Labs.
Ouais. C'est le lieu de fabrication. On fabrique nous-mêmes. On dit do it yourself en anglais, c'est ça? On fabrique. Ouais. Alors, ça peut être des instruments de musique, mais ça peut être plein de choses, y compris jusqu'aux manipulations biologiques. Voilà. Alors, vous, c'est les instruments. Mais pour revenir ces moments initiaux, les premiers moments, les moments où vous montez des groupes de rock plus ou moins éphémères, j'imagine, dans les institutions qui sont des institutions parfois psychiatriques, c'est ça?
Oui, à la fois la psychiatrie, le handicap mental. Au début, on a beaucoup traîné dans les institutions pour autistes. Et voilà. Et l'idée, on est généralement accueilli soit régulièrement une fois par mois, soit on va arriver et sur une période d'une semaine ou dix jours, on a le temps de monter avec en général un plafond de 6 participants, un atelier qui va se transformer progressivement en groupe avec une dynamique de jeu collective. Chacun, au bout d'un moment, identifie sa zone de confort instrumentale, etc. Et on essaye, comme vous l'avez entendu, de marquer le coup à chaque fois, soit si c'est possible par une représentation, une espèce de restitution à la fin. Mais c'est souvent difficile parce qu'on est et puis en plus de ça, on a tendance à charger la barque. On va généralement vers des publics les plus difficiles qui ont en général pas accès aux activités culturelles. Et on marque le coup, sinon par des disques qu'on enregistre systématiquement. Et vu qu'on croit à leur valeur artistique, c'est des disques qu'après on va défendre auprès de labels expérimentaux en disant que bien malin celui qui arrivera à faire la différence avec le groupe des expérimentateurs du coin et ce qui sort de nos ateliers. Et
avec cette attention, j'ai l'impression, je crois avoir compris ça, c'est il faut, ce que vous venez de dire, identifier la zone de confort de chacun, c'est-à-dire finalement le caractère musical de chacun, aider à une forme d'expression spécifique pour chaque membre du groupe, plus ou moins éphémère.
Du plaisir sonore, c'est vraiment, pour vraiment faire clair, nous on ne se revendique pas du tout du thérapeutique, du rééducatif ou ce genre de choses. On essaye de créer des espaces de liberté genre hyper formels, ce qui n'existe pas beaucoup dans les institutions, des espaces où on peut faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, que ce soit crier, taper... vraiment, on leur donne des barres en fer pour taper sur des basses. Et l'idée, c'est de voir jusqu'où ça peut aller. Et le confort, des fois, c'est de dire que pendant une demi-heure, t'as le droit de taper comme un bourrin sur ta basse.
C'est de trouver un mode d'expression aussi pour chacun de ces participants-là. C'est aller vers les autres aussi, mais à travers la musique, non ?
Et c'est souvent faire écho à ce qui est identifié dans le cadre thérapeutique, dans leur accompagnement et leur encadrement à des manifestations du symptôme. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de, on a coutume de le dire comme ça, parce que ça simplifie un peu le discours, c'est de hacker musicalement le symptôme. C'est-à-dire qu'on va prendre un autiste qui, pour le coup, a un mouvement de balancement, une autre forme de handicap où, justement, on est dans la répétition de mots tout au long de la journée.
La stéréotypie de la voix,
voilà,
par exemple,
c'est quoi
ça ?
L'écolalie. C'est ce qu'on appelle les stéréotypies, c'est-à-dire que c'est des troubles ultra récurrents et que, généralement, l'objectif, c'est justement de faire disparaître. Une institution qui fait bien son boulot a tendance à éloigner ce genre de manifestations. Et nous, au contraire, on lève le doigt et on dit dans nos ateliers, t'as le droit, allons-y. Nous, c'est vrai qu'on a un goût après pour les musiques répétitives,
pour les sériels,
et puis pour les choses qui accrochent un peu, même qui nous mettent un peu mal à l'aise parfois. Et donc, on essaye de développer aussi des instruments qui peuvent faire écho à ces stéréotypies. C'est-à-dire que traditionnellement, un autiste qui se balance, on va essayer d'inventer un instrument qui, avec un capteur qui capte ce balancement et qui le traduit en musique. Et donc, concrètement, la conséquence, c'est que ce geste, ce balancement qui est isolant, qui est une manifestation de ses symptômes, va devenir un élément de jeu musical et un élément qui va permettre d'aller vers les autres. Et le point de départ, un jeu collectif où chacun va trouver fonction de ses capacités.
Mais l'idée, c'est vraiment aussi d'aller chercher ce qui accroche. Parce qu'un autiste, un autiste qui est plutôt, on va dire, costaud, quoi, on l'attire pas vers la musique n'importe comment. C'est pas en lui proposant un synthé ou quelque chose qui va accrocher, quoi. Il faut aller des fois le chercher sur son territoire. Et nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse aussi. C'est vraiment la question de la sensorialité chez les autistes. Et que des fois, on a eu des jeunes où on nous dit « Oh, ils ne s'intéressent pas vraiment à la musique. » Bon, mais vas-y, prenez-le quand même. Et puis, et finalement, on se rend compte que ce qui les intéresse, c'est juste les extrêmes sensoriels. Donc, si la musique, elle est dans des fréquences un peu médium, ça ne marche pas trop. Et dès qu'on va dans les infrabasses ou les extra-aigus, il se passe des trucs un peu super.
Et puis, ça crée aussi comme ça une esthétique musicale qui est celle de Brutpop. On écoute justement un extrait d'un de ces ateliers. Ça s'appelle... Le morceau s'appelle « Rouler galette » et on comprend ce que vous voulez dire en utilisant justement ce qui peut paraître parfois un défaut. Bah là, ça devient presque l'instrument.
Bah
On avait reçu il y a quelques mois maintenant ici le Wild Classical Music Ensemble, qui est un groupe belge, voilà, qui a été fondé par Damien Manet, qui est aussi le batteur, qui rassemble aussi des personnes atteintes d'autisme ou de handicap mental. Et une des choses que nous avait dit le groupe, c'est que les derniers qui les avaient pris au sérieux finalement, alors que c'est un groupe qui tourne aujourd'hui sur des scènes en France, en Belgique, ailleurs, c'est les institutions et les familles. Alors, quel ressenti vous avez par rapport aux ateliers que vous montez? Puisque je vous disais tout à l'heure, David, que c'est bien malin qui fera la différence entre les groupes expérimentaux, selon ceux avec qui vous travaillez, ou d'autres à côté.
Eh ben, pour dire vrai, c'est pas toujours facile de présenter une démarche expérimentale à la fois aux institutions et aux parents. Pour la bonne raison, comme on le disait tout à l'heure, que si dans ces ateliers on met en valeur une forme d'expression du symptôme, ils n'ont pas nécessairement l'impression que ça va dans le bon sens. Il y a beaucoup de groupes qui existent. Alors le Wild Classical Music Ensemble, à mon avis, est un contre-exemple, parce que dans les institutions, on a souvent des groupes qui vont plus dans le sens où on va essayer de faire le groupe le plus normal possible, coller à des codes et faire de la, entre guillemets, bonne musique, avec souvent des éduques qui se mélangent à des musiciens handicapés pour faire une espèce de copie d'un truc correct.
Mais après, pour la petite histoire, c'est que notre duo, il est basé sur le fait que moi, au départ, je suis éducateur depuis bientôt 15 ans et que je connais le monde des institutions. David est musicien et que je connais un peu le langage des institutions, des parents. Mais j'avoue que bon, maintenant, c'est un peu plus facile parce qu'on commence à être un peu reconnu. Ça fait longtemps qu'on le fait, mais c'est vrai que ça défend de laisser la singularité en musique, c'est pas toujours été facile, quoi.
Mais il y a des choses qui avancent, qui existent. On parlait du Wild Classical Music Ensemble, et je crois qu'il y a un groupe que vous connaissez qui s'appelle The Chulers, par exemple.
Les Chulers, et en particulier leur version rap qu'ils défendent maintenant. Les Chulers, à la base, c'est une grosse formation d'une dizaine de musiciens qui a été montée par une institution qui est au fond des Ardennes, qui est
en Belgique aussi.
En Belgique aussi, et c'est pas un hasard parce que les Belges sont cool et rigolos et ils ont une approche du handicap qui est à leur image. Et donc pour nous là, cette institution justement a fait figure de vraiment de pionniers en Europe et d'égales qui sont parmi les plus avancés. Il faut aussi à Paris, il y a un autre groupe qui s'appelle les Harrys, qui a été monté en partenariat avec le festival Sonic Protest. Il y a un autre groupe qui était à l'Eurovision dont on peut parler, qui s'appelle le groupe PKN, qui a joué le 13 avril dans le cadre de Sonic Protest, qui est un groupe avec, je crois, deux autistes et deux trisomiques, et c'est une espèce de punk à roulettes, mais c'est très rigolo. Il y a plein d'initiatives qui méritent d'être un peu mise en lumière.
Ouais, on va mettre en lumière les Chulers avec un extrait d'un morceau qui s'appelle Pornicher. Mmh.
en ai marre. N'est-elle plus casse-toi, tu ne rentres pas chez moi. Je t'aime plus, je te donne rien. Casse-toi. Tu ne veux plus être ma femme. C'est fini pour moi. Rentre chez toi. Je suis tout seul. J'ai malheureux cause de toi. Casse-toi. T'es même plus jamais. C'est fini pour toi.
Un extrait de Pornichet par les Chouleurs dont on parlait à l'instant. Dans, pour ce qui concerne Brut Pop, il y a aussi un travail sur le texte. Vous permettez, selon les ateliers, à se saisir de certains textes qui se transforment parfois, qui ne sont pas destinés à l'être au départ, à être des formes de poésie, Antoine Capé.
Et justement, en fait, ouais, c'est un peu l'idée de Brut Pop, c'est un peu une référence à l'art brut.
Ouais.
Mais le côté pop, c'est aussi un peu pour casser ce côté... où on dit que l'art brut c'est des gens indemnes de culture et que c'est ça la pureté de la création, et nous on revendique un peu l'inverse, qu'au contraire les jeunes qu'on croise sont des éponges à la pop culture.
Ouais.
Et hyper influencés par la télévision, la radio, la pub, et vraiment ce qui sort vraiment dans nos ateliers souvent c'est des tirades de pub, des extraits de jingle radio, les mecs font le décompte du décompte de la radio. Enfin, c'est vrai que c'est des messages qui ressortent souvent dans nos textes quand il y a des textes.
Bah, extrait, alors, justement. Là, je crois que c'est quelqu'un qui s'est saisi d'une publicité pour Chronopost. Et ça se transforme complètement. C'était un atelier l'année dernière.
Ouais, ouais. Hein.
Les colis, vous arrivez à temps? Est-ce que vous auriez imaginé une chose aussi incroyable que la vôtre? Les colis, ça se fait dans les temps. Mais pour combien de temps exactement? Chez Chronopost, nous avons agi pour que nous faisons avancer le monde. Chez nous, les colis sont livrés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour aller vers une destination, vers l'horizon. Pour un horizon qui s'avance, qui vous emmènerait très loin vers le monde. Pour que la Terre fasse avancer vos colis et surtout vers le monde. En 24 heures, Chronopost sait comment engager, et c'est pour cela que nous appelons les maîtres du temps. Chez Chronopost, nous vous offrons la garantie de vol. Si votre colis est abandonné le jour même de votre récupération, nous le reprenons immédiatement. Avec Chronopost, vous avancez le monde pas à pas. Vous allez vivre une expérience unique que jamais Chronopost vous enverrait vers le monde. Chronopost, les maîtres du temps. Chronopost, les colis qui vous ont fait avancer vers un pays nouveau, le monde entier. Vers le monde entier et vers l'horizon. Chronopost, 08, envoyé le 21 mars 1990 à Chicago à 8h35. Destination, l'Afrique du Sud, Johannesburg.
Alors est-ce que vous vous rappelez le nom de la personne qui
ouais,
est...
Oui, c'est Johan. Ouais.
Johan Guzman, qui joue aussi dans Stéréotypie, c'est un groupe avec des autistes et des éducateurs.
Mm-hmm. Et donc vous revoyez des groupes, j'imagine, que vous montez, est-ce qu'il y en a certains qui deviennent réguliers, récurrents?
Ben, en fait, pour tout dire, c'est vrai qu'on travaille quand même avec des publics pas mal en situation de handicap, et on a rarement des groupes qu'on peut vraiment porter assez loin. Mais en tout cas, la question de faire du réseau pour nous, elle est hyper importante. C'est que pendant hyper longtemps, on avait l'impression d'être tout seul à faire notre truc. On se doutait bien qu'on n'était pas les seuls à expérimenter. Mm-hmm. Mais on a mis beaucoup de temps à identifier des potentiels partenaires. Donc c'est vrai que de défendre les Chulers, défendre les Harris, défendre Wild Classical, et de dire que on montre qu'on a un regard sur le handicap qui sort un peu du pathos, mm-hmm. pour nous, c'est hyper primordial de dire qu'on...
Maintenant, c'est devenu une grosse partie de notre activité, c'est-à-dire qu'en dehors des moments d'atelier ou les créations d'instruments, le troisième volet qui nous prend beaucoup de temps, c'est d'essayer de monter ce réseau et de monter des événements justement où on montre le réseau, que ce soit par des tables rondes, des moments de concert, des projections, voilà, et on essaye de faire ça hors des circuits du handicap, dans des endroits. On a fait ça à la Gaîté Lyrique en décembre, on a fait ça à la Friche de la Belle de Mai à Marseille en juin dernier. On essaye de montrer dans des lieux de culture contemporaine qui sont, voilà, très visibles, justement ces créations brutes qu'on essaye de soutenir, et aussi de voir quels sont les liens qui nous paraissent intéressants entre culture underground et création brute. C'est, à notre avis, c'est pas un hasard, et c'est un truc qu'il faut questionner. Pourquoi toute la frange de, à la fois musicale, underground, expérimentale, mais aussi les plasticiens s'intéressent à fond à ce qui se passe dans les institutions, et c'est un truc qu'on essaye de mettre en valeur dans ces moments de rencontre. Pourquoi, quels sont les rapports, voilà.
Mais notamment, il va y avoir un autre endroit où vous allez pouvoir faire valoir cette expérience-là. C'est ce qui se passe à la fin du mois, et début mai, 30 avril, 1er mai. C'est la Maker Faire à la Porte de Versailles à Paris. On l'a dit, voilà, vous êtes aussi dans cette scène-là des makers, des faiseurs, enfin voilà, de cette scène qui est plus si nouvelle maintenant, qui commence vraiment à avoir une grande importance, notamment sur le lien entre maker et santé. Et vous pouvez intervenir sur cette scène-là. Là, il y a des choses qui se font, et notamment à travers la fabrication d'instruments, puisque c'est ce que vous faites.
Oui. En fait, c'est vrai que un exemple qu'on donne souvent, c'est que, par exemple, pour faire de la guitare, il faut quand même bien la tenir, il faut un petit peu passer les doigts, et puis il faut gratter correctement. Et puis c'est lourd, et nous on se dit, mais la guitare c'est quand même un truc qui attire, il y a un truc, il y a le gimmick, tu as l'air de quelque chose avec une guitare entre les mains, et notre premier truc c'est d'essayer de fabriquer des guitares qui sont plus simples à prendre en main, et qu'avant de se servir bien de 6 cordes, déjà de s'en servir de 2 ou de 3 ou d'une seule, c'est pas mal. Donc on essaye de faire des guitares en utilisant les machines à commande numérique qu'il y a dans les Fab Labs, des guitares simplifiées, mais qui sont quand même de vraies guitares. Donc on essaye de faire des guitares à 10 €, de matière première, mais qui sonne, quoi.
Mais vous faites partie, David Lemoine, du groupe Cheveux. Vous utilisez ces instruments-là que vous fabriquez?
Alors non, on n'utilise pas, mais c'est vrai que pour c'est quelque chose qu'on se dit avec Antoine, que ce serait pas mal d'essayer de voir comment des groupes de rock de la scène qu'on connaît ici à Paris s'emparaient de ces instruments. C'est un truc qu'on a l'intention d'explorer. Mais juste pour donner une petite précision sur l'univers des Fab Labs dans lesquels on traîne, les Fab Labs sont vraiment classiquement des usines à prototypes, c'est-à-dire des usines à objets singuliers qui ont après vocation ou pas à devenir produits en série. Et le rapport qu'on a trouvé avec le handicap qui est intéressant, c'est que le handicap, il n'y a pas de profil type du handicapé. Le handicap, c'est une série de cas particuliers. Chacun a un handicap bien personnel, avec des contraintes bien personnelles. Et c'est là où l'univers des Fab Labs peut produire à l'unité toutes sortes d'instruments qui sont adaptés à l'unité. Un peu comme si les Fab Labs devenaient les ergothérapeutes du futur.
Est-ce que c'est la Brute Box?
La Brute Box, c'est un instrument qu'on essaye de développer, et là pour le coup un instrument plutôt numérique. Ça marche un peu comme une console de son qui pilote des sons sur un ordinateur, et on branche des joysticks qui sont des capteurs de distance, des capteurs de lumière, des capteurs infrarouges, on peut mettre des capteurs d'ondes cérébrales. L'idée, c'est d'avoir une boîte à outils où on peut rejouer un peu toutes les situations d'atelier qu'on a eues. Et ce qui fait qu'on prend un bouton, à un moment ça devient un modulateur d'un effet, à un moment ça devient une touche de synthé. mais c'est d'avoir un objet un peu plug and play, mais qui
plug and play, ça veut dire qu'on peut l'adapter dans plein de sens.
Ouais, et puis c'est surtout que s'adapter à la contrainte de l'utilisation en institution, c'est que nous, on se déplace avec des caisses de matériel, de fils, de trucs et tout, mais on est dans des conditions qui sont pas vraiment normales en institution. Et en institution, on a besoin qu'en 5 minutes, il se passe un truc, et puis après, on débranche, et donc on veut créer une sorte d'instrument à tout faire.
C'est aussi un peu le volet militant de notre action, c'est-à-dire que nous notre ambition aussi, c'est de faire rentrer le plus possible la musique, et pourquoi pas la musique expérimentale, enfin au moins l'expérimentation en musique, dans les institutions. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est trouver les objets les moins chers, parce qu'il y a souvent la contrainte économique, c'est la première. Quand vous présentez votre projet, la seule réponse que vous...
Combien
que,
ça coûte ?
Voilà. Et puis, est-ce que vous pouvez le faire en une heure ? Ouais. Du coup, on essaye de développer des instruments qui s'adaptent à ça. Donc nous, on se met dans la position qui a été la nôtre d'ailleurs, de l'éduc qui a 200 balles à dépenser pour son atelier musique et pas de place pour stocker.
Pas beaucoup de temps.
Et donc, il faut un peu que ça marche tout seul. Et donc c'est un peu notre avantage, si vous voulez, c'est qu'on a bien identifié le contexte, les contraintes, et qu'en même temps, on a une notion de la qualité musicale qu'on veut sortir de ça. Et donc, on essaye, une fois bien défini le cahier des charges, de développer les objets.
Voilà. Des objets qui soient partageables aussi, c'est-à-dire
en open source.
En open source, voilà, ça permet aux autres de profiter des plans et de développer aussi ses propres objets sur le même modèle. Merci à tous les deux, David Lemoine et Antoine Capet, d'être passés ici. Brut Pop, donc, ça continue. On vous surveille, on vous regarde et on regarde ce que vous faites. Et on va évidemment mettre toute une série de liens sur le site de Supersonic pour que tout un chacun puisse vous suivre aussi. Merci encore.
Merci à vous.
Merci.
C'est la fin de Supersonic, ça cause autour de la table. Oui, il y a plein de choses à dire entre nos invités, Thierry Wallace et Brut Pop. Attention, la semaine prochaine, il n'y a pas de Supersonic. En lieu et place, vous aurez la cérémonie des Pâques orthodoxes, qui ne sont pas moins supersoniques. On se retrouve donc le 7 mai. Pour aller plus loin et retrouver toutes les références de l'émission de ce soir, on l'a dit, c'est sur la page de Supersonic, sur franceculture.fr. L'émission est préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour, et au son ce soir, il y avait Pierre Monteil. Dans un instant, vous retrouvez les Nuits de France Culture. Nous, donc, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien.